Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux à la fin de cette journée de nous retrouver avec ta parole. Nous voudrions la comprendre. Et au travers de ce texte écrit, Seigneur, nous voudrions apprendre à connaître, à aimer notre Sauveur, celui qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, ouvre notre compréhension, donne-nous ton esprit, pour que l'esprit que tu as donné à tes prophètes nous anime aujourd'hui pour comprendre ce qu'ils ont écrit de ta part. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, nous avons regardé les manuscrits, nous avons fait une étude un petit peu plus technique par rapport à l'origine du livre. Je ne vais pas revenir là-dessus, à moins que vous ayez des questions particulières sur ce point. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ce sont deux choses. C'est voir ce que la Bible dit d'elle-même et voir comment l'utiliser. Je voudrais d'abord être sûr de l'utiliser de la bonne manière pour arriver au bon résultat. Dans un premier temps, qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? Comment Dieu se révèle au travers des Écritures? Alors, je voudrais reprendre le texte que nous avions abordé la dernière fois dans Genèse, chapitre 3, verset 8.
Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme, sa femme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Et je me suis caché.
Merci. Ce texte-là arrive à la suite du fameux événement de la chute d'Adam et Ève. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dès le départ, c'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. L'homme se cache loin de la face de Dieu. L'homme fuit Dieu. Et Dieu est à sa recherche. Le texte nous dit ici, l'Éternel Dieu appela l'homme. C'est véritablement le verbe crier. Et vous imaginez Dieu dans le jardin qui crie « Adam, 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 où es-tu ?» Il le cherche. Ils avaient l'habitude de se rencontrer tous les jours. Maintenant, voilà, la relation est cassée. Dieu cherche l'homme. L'homme ne cherche pas Dieu par définition. Alors, si Dieu cherche l'homme, Dieu va utiliser tous les moyens à sa disposition pour rencontrer l'homme, pour rejoindre l'homme, pour aller le chercher. Et le texte que nous avons sous les yeux, les écrits bibliques, sont un des moyens importants que Dieu utilise pour aller nous chercher. Un autre passage dans le livre du prophète Amos. Amos au chapitre 3. C'est un texte très court dans les petits prophètes.
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.
Merci. Il y a là quelque chose d'extrêmement important. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à qui? À ses serviteurs les prophètes. On apprend donc ici deux choses. Numéro 1, Dieu ne fait rien dans notre dos. Dieu ne fait rien sans le faire connaître. Dieu ne nous prend pas par surprise. Dieu ne nous fait pas des coups tordus pour nous prendre au dépourvu. Dieu se révèle, il fait connaître ses secrets que nous n'avons pas le moyen de connaître. La deuxième, c'est que Dieu se révèle, mais il va se révéler par l'intermédiaire des prophètes. Dieu est de notre côté. Dieu n'est pas un ennemi par définition. Dieu veut rétablir avec nous la relation qui a été brisée dès le départ. Dieu se révèle. Comment est-ce qu'il se révèle? Est-ce que je vais attendre d'avoir une vision, une révélation personnelle? Non. Comment est-ce qu'il s'est révélé? Par les prophètes. Donc c'est là que je vais aller chercher la révélation de Dieu. Je ne vais pas attendre qui est une vision qui me tombe dessus comme une tuile au coin d'un toit. Dieu va se révéler aussi d'une manière particulière. On va voir ça dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. 1 et 2.
À bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers.
Merci. Dieu s'est révélé autrefois, comment, par qui?
Nos ancêtres, les prophètes.
Voilà. Mais maintenant, Dieu va se révéler d'une façon encore plus précise. De quelle manière?
Son fils.
Par la venue de son Fils. Référence à l'incarnation de Jésus. Raison pour laquelle l'apôtre Jean va appeler Jésus la parole. Il va commencer l'évangile en disant, Voilà, la parole a été faite chair, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il va prendre cette notion de la parole de Dieu, qui est extrêmement importante dans l'Ancien Testament, et il va présenter la parole incarnée, Jésus. On a là la parole écrite par les prophètes, maintenant la parole s'incarne, et Jésus est la révélation suprême de Dieu en chair et en os. Donc Dieu parle, Dieu veut nous parler. La question est de savoir, est-ce que nous avons envie d'entendre? Est-ce que nous sommes prêts à écouter? Dieu est à notre recherche, Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut recréer une relation avec nous. Est-ce que je suis prêt à écouter ou est-ce que je fais comme Adam qui va se cacher? Maintenant, de quelle manière Dieu parle-t-il à ses prophètes? Alors, il va le dire d'une façon très claire dans Nombre. Nombre chapitre 12, on est là à l'époque de Moïse, il y a eu une révolte dans le peuple, parce que même dans la famille de Moïse, il y en a qui ont dit, oui mais bon, il se prend pour qui? Moi aussi je peux être prophète après tout, non? Et Dieu intervient, et Dieu parle. Et j'aimerais que quelqu'un nous lise 5 à 8, s'il vous plaît.
L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse?
Merci. Ici, Dieu intervient dans le peuple et il met les points sur les i en faisant comprendre que les prophètes sont des gens particuliers, ce sont des gens que Dieu choisit. Il parle là de son serviteur Moïse et il va donner des indications. Il va dire, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu dit qu'il va parler aux prophètes par des visions et par des songes, c'est-à-dire... C'est le même phénomène. L'un, c'est pendant le jour, pendant l'éveil. L'autre, c'est pendant le sommeil, pendant la nuit. Dieu parle à ses serviteurs de cette manière-là. Donc Dieu ne va pas s'adresser directement à chacun d'entre nous. Il va s'adresser à ses prophètes qui sont le relais de la parole de Dieu pour nous. Regardez maintenant dans Job. Job 33, 14 à 17. C'est là un des amis de Job, on en parlera plus tard, qui explique, qui rappelle le phénomène de l'inspiration, comment Dieu parle à ses serviteurs, et il l'exprime dans des termes un peu différents.
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un sommeil profond, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil.
Merci. Dieu parle de cette manière-là. Dieu communique de cette manière-là avec l'être humain parce qu'il ne peut plus communiquer avec lui comme il le faisait dans le jardin d'Éden. Il y a une coupure qui est intervenue. Donc Dieu prend un relais, un moyen pour parler à l'humanité. Ce sont ses serviteurs, les prophètes.
Mais il fait quand même avec Moïse.
Dans le texte qu'on avait dans Nombre, justement, il explique que Moïse est dans une situation particulière. On n'a pas ailleurs dans les Écritures d'indication que Dieu ait été aussi proche d'un autre prophète que de Moïse. Vous vous souvenez, Moïse avait demandé « Fais-moi voir ta face ». Et Dieu avait dit « Tu ne peux pas voir ma face parce que personne ne peut me voir et vivre, mais je me montrerai par derrière ». Et tu verras une représentation de l'Éternel. Donc, il y avait un contact entre Moïse et Dieu qui était unique, spécial. Raison de plus, dit-il, pour que vous respectiez Moïse que j'ai choisi. Dieu parle, Dieu se révèle dans les visions et il demande d'aller plus loin. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Apocalypse 1, versets 10 et 11?
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. »
Merci. Et puis il donne la liste ensuite des églises. Vous voyez que ici, Jean qui a écrit l'Apocalypse, dit « Je fus saisi par l'Esprit, il entend dire « J'ai une vision pendant que je suis réveillé » et il entend une voix qui lui dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et transmets-le à qui c'est destiné. » Les prophètes reçoivent de Dieu un message et ce message n'est pas pour eux, ce message c'est Dieu qui parle à son peuple. Ça doit être transmis. Raison pour laquelle nous avons ça aussi sous une forme écrite. Alors la dernière fois, je vous avais montré que dans le début de l'histoire biblique, la longévité des gens permettait d'avoir un lien de bouche à oreille sur une grande période de temps. Mais à partir de Moïse, la longévité est très courte, le peuple augmente, il est nécessaire d'avoir quelque chose de clair et de par écrit. Regardez maintenant dans Matthieu, chapitre 23. C'est Jésus qui parle. Et là, on a un Jésus ému, un Jésus bouleversé. Matthieu 23, 37.
« Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. »
Merci. Jésus est pris d'émotion devant la ville de Jérusalem parce qu'il dit « Vous avez reçu les prophètes, ils vous ont été envoyés constamment. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous les avez mis à mort, vous les avez lapidés, vous les avez fait taire. Et maintenant, c'est le Fils qui vient et ils veulent faire la même chose avec lui. » Et l'image que Jésus emploie est une image intéressante. Voilà, ce que Dieu a voulu faire, c'est rassembler ses enfants comme une poule rassemble ses petits. C'est une image pleine d'affection, pleine de tendresse, pleine de bonté. Voilà ce que Dieu veut faire. Comment Dieu veut-il faire cela? Par l'intermédiaire des prophètes, de ceux qui sont envoyés au peuple et que le peuple est invité à écouter. Or, nous avons, nous, entre les mains, ce que Dieu a dit aux prophètes en question. Nous avons donc la possibilité, nous aussi, aujourd'hui, de venir sous les ailes du Seigneur, pour reprendre l'image de Jésus, en mettant notre nez dans ce que les prophètes ont écrit de sa part. Donc Dieu parle. Dieu parle avec amour. Dieu cherche à recréer un lien avec les hommes. Il le fait par l'intermédiaire des prophètes. C'est l'outil qu'il a choisi d'utiliser pour faire cela. Maintenant, quelle autorité cette parole a-t-elle, cette parole écrite? Regardez un texte avec moi qui est très important dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, est-ce que quelqu'un pourrait lire pour commencer les versets 16 à 18 pour commencer?
En effet, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. Lorsque nous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné l'honneur et la gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait: « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Ah, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes puisque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne.
Merci. Dans ce paragraphe-ci, Pierre est en train de dire ce que nous croyons, ce n'est pas des histoires qui ont été racontées, puis qu'on a acceptées, puis qui circulent. Il dit « Cette majesté de Jésus-Christ, nous l'avons vue de nos propres yeux. » Et en plus de ça, nous avons entendu cette voix qui venait du ciel et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » À quel événement est-ce qu'il fait référence ici?
Au baptême de Jésus.
Au baptême et à la transfiguration. Matthieu chapitre 17, où Jésus a été glorifié, où il est apparu aux disciples avec Élie et Moïse, et Pierre est en train de dire « Nous, on était là ». Ce n'est pas qu'on a suivi ce que les gens ont raconté. On était là, on est des témoins de ce qui s'est passé. Par conséquent, nous croyons en Jésus, non pas par le rapport des autres, mais parce que nous avons été témoins de ça. Mais Pierre ne s'arrête pas là, il continue. Est-ce que quelqu'un voudrait maintenant nous lire 19 à 21?
« Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Merci. Alors ici, on a un texte très riche. Tout à l'heure, l'apôtre Pierre a dit « Nous croyons en Jésus parce que nous avons été témoins de la manifestation divine, nous avons été témoins de sa glorification, nous avons vu. » Mais Pierre est en train de dire « Ce n'est pas en fonction de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu que nous croyons. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Autrement dit, même si on a vu, même si on a entendu, c'est sur la base de ce qui est écrit que nous croyons, pas sur la base de ce qu'on a vu et entendu. L'apôtre Pierre ici pose clairement l'autorité de la parole de Dieu, de la parole écrite, comme étant l'autorité suprême qui dépasse le témoignage de nos sens. Et ça, c'est important parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a pris une position qui consiste à dire « Moi, je l'ai vu, je l'ai senti, donc c'est vrai ». L'apôtre Pierre, qui était témoin de ce qu'il a vu en Jésus, dit « C'est pas en fonction de ça que je crois, c'est en fonction de la parole de Dieu qui est d'autant plus certaine. » Et il va expliquer pourquoi. Alors, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, une image de Jésus, justement, montrant par là, et on verra d'autres textes, que cette parole de Dieu a pour objectif de donner à Christ toute sa place dans notre vie. Maintenant, il dit « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Là encore, ce texte va à contre-courant de ce qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de gens disent « Ah ben écoutez, moi je le sens comme ça. Toi tu le sens comme ça, ben c'est correct. » Non, parce qu'à ce moment-là, à quoi sert la parole de Dieu si chacun peut dire ce qu'il veut à propos de ce qu'il lit? Le texte nous dit « Ça ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière ou personnelle. » Il y a par conséquent une vérité clairement énoncée. Notre rôle est d'aller la chercher et pas de dire « Ah ben pour moi ça veut dire ça, ça me suffit. Si pour toi ça veut dire autre chose, ben c'est correct. » Non, je ne peux pas dire « Écoutez, on va chacun faire de ça ce qu'on veut. » Et on va voir dans un moment que la parole de Dieu nous donne une clé, des clés, pour aller chercher ce que Dieu veut dire, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce que je comprends d'après les Écritures, c'est que Dieu m'invite à chercher à comprendre ce qu'il veut dire. Et là, je ne fais pas une interprétation particulière ou personnelle. Par contre, une fois que j'ai compris ce que Dieu me dit, je suis invité à en faire une application personnelle. C'est-à-dire, ce que Dieu me dit, qu'est-ce que je vais en faire dans ma vie à moi? Et on va tomber tout à l'heure sur un texte d'Apocalypse qui nous parle de ça. Donc, je ne peux pas faire des Écritures ce que je veux. C'est Dieu qui me parle. Qu'est-ce que Dieu me dit? C'est ça que je veux savoir. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas en faire une application personnelle au hasard? Parce que, dit le texte, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les prophètes sont des gens qui sont des porte-paroles de Dieu. Autrement dit, ce qu'il me donne, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec. Ces gens-là n'ont pas raconté leur propre salade. Ils ont rapporté ce que le Saint-Esprit leur a donné. Je suis invité à le recevoir. Vous avez remarqué, le texte ici nous dit, Dieu ne parle pas comme ça au hasard, c'est le Saint-Esprit qui parle. Autrement dit, si je veux comprendre ce que Dieu dit par les prophètes en utilisant son Saint-Esprit, il faudra que je demande à Dieu de me donner le même esprit pour comprendre ce qu'il a dit. Ça ne va pas faire de moi un prophète, ça va faire de moi un enfant de Dieu qui écoute Dieu. On va regarder un autre texte dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Merci. Vous voyez un petit peu à quel point l'autorité de la parole de Dieu est grande. Elle est là pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour nous rendre mûrs dans notre vie spirituelle. Cette parole de Dieu, elle n'est pas passagère non plus. Je prends simplement un texte Je le prends dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, verset 8.
L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement.
Merci. Ce texte nous fait comprendre l'aspect passager de ce que nous connaissons dans le monde, mais contraste avec ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas passagère. Nous allons vivre quelques années, puis nous allons tous mourir. Mais la parole de Dieu demeure comment ? Éternellement. Quand Dieu parle, cette parole, elle est éternelle. Et évidemment, à partir de là, on peut partir aussi sur Jésus, qui est la parole de Dieu, en sachant que lui aussi est éternel, puisqu'il est entièrement divin. La parole de Dieu, c'est une expression dans l'Ancien Testament que l'on retrouve et qui est liée à la notion de création. Quand Dieu parle, la chose existe. Quand Dieu parle, il crée. Personne, si ce n'est Dieu, a cette capacité-là. Maintenant, comment est-ce que l'Ancien Testament est considéré ? Alors, on va regarder ce que dit Jésus dans Luc, Évangile selon Luc, chapitre 24. Luc 24, versets 44 à 45.
Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. »
Merci. Jésus ici est clair. Il a expliqué ce qui le concernait dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ces trois choses-là sont les trois grandes divisions de l'Ancien Testament. La loi de Moïse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Pentateuch, la Torah, les cinq livres de Moïse. Les prophètes, c'est les Névi'im, c'est les livres prophétiques qui ont été écrits par les prophètes et que nous avons divisés dans nos Bibles en deux parties, les livres des prophètes qui sont des textes plutôt prophétiques et ceux qui sont des textes historiques. Mais c'est écrit par les prophètes. Et puis les autres écrits, qu'on appelle aussi les psaumes, Ketuvim, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, pour prendre un raccourci, comme les livres poétiques, c'est-à-dire psaumes, proverbes, ecclésiastes, cantiques des cantiques, Job. Et dans la Bible en hébreu, il y avait aussi le livre de Daniel. Ce sont les trois grandes catégories qui constituent tout l'Ancien Testament. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures dans leur totalité. Au temps de Jésus, qu'est-ce que c'était les Écritures ? C'était l'Ancien Testament. Jésus est donc en train de dire dans Luc 24, les trois parties qui représentent l'Ancien Testament sont pour lui les Écritures. Et Jésus s'est basé sur les Écritures pour démontrer qui il est, pourquoi il est venu, quand il est venu, ce qu'il avait à faire. Nouveau Testament maintenant, j'avance un petit peu plus vite. Quelle est l'autorité du Nouveau Testament ? Certaines personnes disent, le Nouveau Testament c'est pour les chrétiens, et puis l'Ancien c'est pour les juifs. Donc on part chacun avec un livre sous le bras. Remarquez une chose, c'est que Jésus, qui est la pièce maîtresse du christianisme, n'avait pas le Nouveau Testament pour expliquer de son temps ce qu'il était venu faire. Il s'est basé uniquement sur l'Ancien Testament. À la limite, on peut faire la même chose. L'Ancien Testament est largement suffisant pour expliquer qui est Jésus, ce qu'il est venu faire, le plan du salut, par la foi, etc. etc. Le Nouveau Testament, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un plus que l'on peut utiliser et qui est le témoignage des apôtres. Alors, regardez par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, on va lire le verset 13. Donc, il fait référence dans ce texte au moment où il est venu la première fois, où il les a rencontrés pour la première fois.
Mais voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser en recevant la parole que nous avons annoncée. Vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui a agi avec efficacité en ce que vous voyez.
Il est en train de dire, lorsque on est venu vers vous et qu'on vous a annoncé la parole de Dieu, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Autrement dit, l'apôtre Paul est conscient que lorsqu'il vient prêcher ce qui concerne Jésus-Christ, il apporte non pas sa parole à lui, mais la parole de Dieu. Il est conscient d'être, dans l'époque du Nouveau Testament, le porteur de la parole de Dieu. parce que lui aussi est apôtre, parce que lui aussi a été choisi, parce que lui aussi a eu des visions, parce que lui aussi a eu des songes, et parce qu'il a un message à transmettre. L'apôtre Paul a conscience d'être porteur de la parole de Dieu, et figurez-vous que les autres sont conscients aussi de ça. Regardez dans 2 Pierre 3, 15 et 16.
Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine.
Merci. Vous remarquez que l'apôtre Pierre, et je suis pleinement d'accord avec lui, reconnaît que quand l'apôtre Paul écrit, il y a des affaires qui sont difficiles à comprendre. Et c'est vrai. Mais il dit, lorsque l'apôtre Paul parle, c'est à égalité avec les autres Écritures. Mettez-vous dans l'esprit de cette époque-là. Pour eux, les autres Écritures, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Pierre considère que ce que Paul dit et ce que Paul écrit aux églises de la part de Dieu est à égalité avec les autres Écritures, l'Ancien Testament. Et vous avez remarqué ce qu'il dit? Les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens. Quel est le résultat? La ruine. Autrement dit, ils ont fait leur interprétation particulière pour eux, selon leur idée. Ça les a amenés à la ruine parce qu'ils sont sortis de la révélation de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à cette première partie. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? Lorsque Dieu parle, il utilise des prophètes. Il utilise des gens qu'il choisit lui-même et à qui il va donner des songes et des visions. Il va leur parler et faire d'eux des porte-paroles de ce qu'il veut dire à son peuple. Ces prophètes vont recevoir des instructions de la part de Dieu. Ce n'est pas eux qui les inventent, c'est parce que le Saint-Esprit leur a été donné pour le dire. Lorsqu'on dit que la Bible est inspirée, c'est un raccourci. Parce que le papier, l'encre, le carton, ils n'ont rien inspiré. Quand on dit que la Bible est inspirée, quand on dit que le Nouveau Testament ou l'Ancien est inspiré, en fait, on est en train de dire ceux qui ont écrit l'Ancien et le Nouveau Testament avaient l'Esprit de Dieu en eux, ce qui leur a permis de parler de la part de Dieu. J'aimerais vous parler de ce que nous avons besoin de savoir pour utiliser la parole de Dieu comme il faut. Je crois franchement que si les chrétiens d'aujourd'hui s'appliquaient à utiliser le mode d'emploi que la Bible contient, on n'aurait pas, à partir de la Bible, toutes sortes d'idées différentes, voire même des idées totalement opposées sur certains sujets. On aurait des variantes, on aurait des petites différences, mais les thèmes essentiels relatifs au plan du salut seraient clairs. C'est la raison pour laquelle je vous disais la dernière fois, ma préoccupation n'est pas de chercher la bonne église ou les gens les plus sympathiques. Ma préoccupation est de savoir qu'est-ce que Dieu me dit vraiment. Et quand j'aurai compris ce que Dieu me dit vraiment, je chercherai ceux qui ont la même bonne volonté que moi pour le trouver, pour le comprendre, pour l'appliquer. Alors, j'aimerais maintenant vous donner un certain nombre de principes que les Écritures nous donnent, qui sont des clés pour l'utiliser. Je vais commencer par vous donner une image. Imaginez qu'on est tous là autour de la table et puis qu'on fait des jeux. On fait des jeux de cartes, des jeux de famille, on joue ensemble. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais elle triche, elle. Puis elle aussi triche. Puis lui, mais c'est une bande de tricheurs, ces gens-là. Le pire, c'est qu'elle me voit jouer, il dit, mais ce pasteur, mais c'est un tricheur, c'est pas possible. C'est terrible, ce gars-là. Puis, mais il triche aussi, lui. Puis au bout d'un moment, on s'arrête, on dit, mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites tous là? Jouez un peu comme il faut. Et on se rend compte qu'on est en train de jouer à un jeu, mais qu'on n'a pas les mêmes règles du jeu. Alors, il y en a un qui dit, ah, bon, moi je vais vous donner, c'est pas difficile, il suffit qu'on ait les mêmes règles. Moi, ma grand-mère, je jouais avec elle à ce jeu-là, elle m'a appris à jouer, voilà, on va jouer comme ça. Moi, je dis, ta grand-mère, moi j'ai appris à jouer comme ça, pourquoi est-ce qu'on va prendre cette règle-là? Elle ne marche pas, ta règle. Moi, on va prendre ma règle à moi. Et on va se disputer de nouveau. Pourquoi la règle à elle? Pourquoi la règle à elle? Pourquoi sa règle à lui? Jusqu'à ce qu'il y ait un esprit éveillé et brillant qui disent « Oui, mais dans le carton du jeu, il n'y a pas un règlement qui a été fait, pas par toi, mais qui a été fait par celui qui a fait le jeu. » Donc, il y a quelque part dans le carton le mode d'emploi et qui est fait par l'auteur du jeu et auquel on est invité à soumettre parce que ce n'est pas celui de l'un ou de l'autre, mais qui est la norme. Ce que je vous propose, c'est d'aller chercher là-dedans les règles du jeu, de façon à ce que dans notre jeu, entre guillemets, on ne soit pas des tricheurs les uns par rapport aux autres, mais que suivant les règles du jeu, on arrive à quelque chose. Faute d'avoir suivi ces règles, on arrive à se considérer entre chrétiens comme tricheurs parce qu'on arrive à des choses qui sont totalement opposées. Un premier principe qui me paraît essentiel est décrit par Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Jean 5, versets 39 et 40.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent le témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
Merci. Ces gens connaissent les Écritures. Ils pensent que c'est la clé pour la vie éternelle. Et quand ils ont Jésus sous les yeux, ils disent non. Jésus précise, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et quand il parle des Écritures, il parle de quoi ?
De l'Ancien Testament,
parce que le Nouveau n'existe pas encore. Premier principe, le fil rouge qui traverse toutes les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, c'est Jésus. Tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament est à propos de Jésus. Toutes ces histoires qu'on a parfois du mal à comprendre parlent de Jésus. Elles ont été révélées à nous qui vivons à la fin des temps pour nous faire connaître Jésus. C'est très important. Il y a dans l'Ancien Testament, dans les Écritures en général, ce qu'on appelle une typologie. C'est-à-dire que des événements, des institutions ou des gens sont pris comme représentatifs d'un aspect de la vie de Jésus. Par exemple, comment s'appelle le fils de David qui est monté sur le trône après lui ?
Salomon.
Maintenant, vous vous reportez 1000 ans plus tard, du temps de Jésus. Jésus rentre à Jérusalem assis sur une monture royale et que crient les gens ? Les gens crient « Hosanna au fils de David ». Mais David est mort il y a 1000 ans, ce n'est pas son fils. Ils veulent dire qu'ils reconnaissent en celui qui est assis sur cet ânon un descendant de David. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que « fils de David », c'est un titre qui est employé dans les Écritures pour désigner le Messie. On comprend qu'il y a des éléments de la vie de Salomon qui représentent certains éléments du ministère de Jésus, le fils de David, pour nous. L'essentiel de l'Ancien Testament est construit sur ce modèle-là. Des éléments, des gens, des circonstances, des événements qui sont en fait représentatifs de ce qui concerne Jésus dans un moment ou un autre de ce qu'il fait pour nous. Ça, c'est important parce que si je lis l'Ancien Testament avec cette recherche-là, je suis sûr de rester sur la ligne de ce que la Bible veut m'enseigner. Et lorsque je tombe dans l'Ancien Testament sur des histoires que j'ai du mal à comprendre, c'est la première question que je me pose. Je me dis, dans cette histoire, où se trouve le lien avec Jésus ? Et Jésus dit, ces Écritures rendent témoignage de moi. Nous, aujourd'hui, nous sommes invités à faire la même chose. À chercher dans les Écritures ce qui va rendre témoignage de Jésus. Et là encore, on se rend compte que de tout ce livre-là, la pièce maîtresse centrale qu'on ne peut pas bouleverser, c'est Jésus qui est au centre. Le christianisme, mes amis, n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine. Le christianisme, c'est une personne. Si on dit que le christianisme est une personne, on est en train de dire que la vie chrétienne est une relation entre moi et Dieu. Le reste vient après. Les doctrines ont leur place, mais elles ne peuvent pas prendre la place d'une personne. Les doctrines sont à propos d'une personne. Ce sont des enseignements pour nous aider à comprendre la personne, de sorte que la relation que j'établis avec lui soit une relation sur le bon pied, sur le bon plan. Je ne peux établir de relation avec quelqu'un que si je connais cette personne. Plus je connais cette personne, plus je vais l'aimer, plus je vais aimer cette personne, plus la relation sera vraie avec cette personne. C'est ce que Dieu veut établir entre lui et moi. Si je veux avoir la conviction d'être dans la vérité biblique, il faut que les enseignements que je découvre là-dedans soient cohérents les uns avec les autres. Je ne peux pas croire à différents enseignements dans différents aspects de la religion qui sont en opposition les uns avec les autres. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit cohérent les uns avec les autres. La vraie religion consiste à me relier à Dieu, par conséquent à reconstruire la relation cassée avec Dieu. Et en reconstruisant cette relation cassée avec Dieu, je suis sauvé. J'ai renoué avec Dieu. Et il faudra qu'on regarde comment est-ce que la Bible nous invite à renouer avec Dieu. Je peux, moi, inventer tout un tas de systèmes. Les hommes ont été très imaginatifs pour inventer un tas de trucs pour apporter leur solution. On en verra une, d'ailleurs, dans le livre de la Genèse. Mais celle qui m'intéresse, moi, c'est celle que Dieu m'a donnée, parce que c'est la seule qui va marcher. Premier principe, les Écritures m'ont été données pour me faire comprendre qui est Jésus, et tout dans les Écritures pointe vers lui. Maintenant, il y a des conditions pour comprendre les Écritures. Dans le psaume 119, on a là une indication de ce dont on parlait en réalité tout à l'heure, qui est présentée là d'une façon un petit peu différente. Psaume 119, versets 17 et 18.
Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, j'obéis à ta parole. Ouvre mes yeux que je vois les merveilles de ta loi.
Merci. Je ne serais pas capable de comprendre la parole de Dieu à moins que Dieu m'ouvre les yeux pour la comprendre. Parce qu'elle est parole de Dieu et moi je suis humain. J'ai besoin que Dieu agisse en moi pour que je sois capable de comprendre, de contempler les merveilles de sa loi.
Les gens qui ont une déficience intellectuelle, là, ils peuvent pas l'apprendre, le livre. Ils n'ont pas les capacités pour le faire. Alors, ils s'en vont où?
Moi, je peux dire quelque chose.
Oui.
Les gens qui ont une déficience, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas le quotient intellectuel pour comprendre tous les détails. Mais une chose auquel toutes les personnes, même ceux qui sont complètement légumes, peuvent avoir un contact, c'est l'amour que tu donnes pour eux. Ce qu'ils comprennent le plus, ça va être l'amour. Peut-être qu'ils ne seront pas en mesure de comprendre tous les détails, mais pour ceux qui bon, qui t'es rendu tellement dément puis tu en as perdu cette capacité-là, c'est triste, mais je veux dire, il y a plusieurs personnes qui sont déficientes qui vont comprendre que quelqu'un a de l'amour pour eux.
Puis au-delà de ça, je trouve que les personnes déficientes vont bien moins se poser de questions, puis vont être bien plus à bras ouverts à accepter le Seigneur.
Il y a un chapitre dans les Épîtres de Paul, dans Romains chapitre 2, où il parle de ça. L'apôtre Paul explique qu'il y a des gens qui sont dans des situations particulières, et c'était le cas des païens qui n'avaient entendu aucune prédication de l'Évangile. Et l'apôtre Paul leur explique que ces gens sont jugés en fonction de ce qu'ils savent, et en fonction de la relation qu'ils établissent avec leur conscience. Dans la parole de Dieu, je découvre que Dieu est un Dieu juste et que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas en train de chercher la petite bête qui va lui permettre de me perdre. Il est en train de chercher la poussière par laquelle il peut me sauver. Un autre passage dans le Nouveau Testament dit la même chose. Hébreux 11. L'apôtre Paul là le dit d'une façon tout à fait différente, mais c'est le même principe. Hébreux 11, verset 6, celui qui l'a, il peut nous le lire, si vous le voulez bien.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Si je veux découvrir Dieu, apprendre à l'aimer, il faut que je vienne pour le rencontrer avec un bon état d'esprit. C'est ça que le texte est en train de me dire. Si je veux m'approcher de Dieu, le texte me dit, il faut au moins que tu crois qu'il existe. Si de toute façon, je considère que Dieu n'existe pas et que je ne veux pas qu'il existe, j'en ai rien à faire de savoir ce qu'il m'a révélé. Je suis invité à m'approcher de Dieu avec un bon état d'esprit, avec le désir de le connaître et que sa révélation m'est accessible.
la foi, quand vous dites la foi rudimentaire, c'est la foi de base. J'ai des amis qui ont le désir de, genre, de croire, mais ils croient pas. Tu sais, parce qu'ils n'ont pas la foi. Je sais pas si vous comprenez, c'est de la foi rudimentaire.
Je sais pas, moi j'ai compris ce que lui a dit, dans le sens que la chose la plus petite que tu peux avoir par rapport à Dieu, c'est croire qu'il existe.
La parole de Dieu me dit d'où vient la foi. Et quand quelqu'un me dit, moi j'aimerais bien croire, mais je n'ai pas la foi, je suis désolé. Écoutez ce texte. C'est Romains 10, à partir du verset 14. Je vous lis Romains 10, verset 14, et puis on va tomber à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Et puis verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si tu n'as pas la foi, ben va te nourrir de ça.
Mais je comprends pas d'abord, tu sais, si on se fie là-dessus, comment quelqu'un qui lit la Bible peut pas croire? On se dit là-dessus.
Là, j'essaie de le retrouver, mais je le retrouve pas. Mais il y a un texte qui dit quelque part.
Tu crois, tu fais bien. Mm-hmm. Le diable aussi, il croit. Mais il tremble.
C'est Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent.
C'est pas juste une question de savoir que ça existe puis de croire que ça existe. Non. C'est une question que tu te laisses toucher par la relation qu'il veut avoir avec toi.
C'est comme quand tu as parlé dans Genèse au début, Dieu est allé chercher l'homme, l'homme s'est enfui. Ben, à la fin, il a décidé d'accepter d'avoir une relation avec lui. Bon, dans le cas d'Adam, dans le cas d'Ève, on voit, tu sais, par la suite, bon, ils ont accepté d'avoir cette relation-là.
Mais il y en a d'autres qui n'ont pas accepté d'avoir cette relation-là. Ça veut pas dire qu'ils croyaient pas qu'il existait, mais qui n'ont pas voulu entretenir la relation qu'initialement Dieu voulait avoir avec eux. Donc, c'est de là qu'on parle de la foi à ce moment-là. Parce que la croyance puis la foi, moi, je pense que c'est deux choses différentes.
C'est tout à fait différent. Une autre clé très importante se trouve dans 2 Timothée 3, 16. On a vu ce texte tout à l'heure. J'aimerais souligner un élément qu'on a laissé de côté. 2 Timothée 3, 16.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
Merci. Il y a une liste de verbes qui sont donnés là, et j'aimerais souligner ça. Toute écriture est inspirée, ça on l'a vu, et utile pour enseigner. Maintenant, quelle différence y a-t-il en français entre le mot « enseigner » et le mot « renseigner » ?
Donner un renseignement à la pharmacie au coin, voilà. Un renseignement, mais enseigner, c'est plus profond, c'est vraiment de comprendre, enseigner. Oui,
c'est deux choses totalement différentes, bien qu'il n'y ait qu'une lettre de différence. Je vais vous donner deux phrases qui sont pratiquement mot à mot deux textes bibliques. L'une des phrases est un enseignement, l'autre est un renseignement. Écoutez-les bien, après vous me direz lequel est lequel. Phrase 1. Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi. Phrase 2. Dieu est amour.
1, c'est un renseignement. 2, c'est un enseignement.
Vous voyez la différence? Quand je demande un renseignement, « Monsieur, où est la poste? » Au fond de la rue à droite. Ça n'implique ni moi, ni la personne à qui je parle. C'est un renseignement qui n'implique aucune des deux personnes qui sont là. L'enseignement, c'est la transmission d'un vécu. Expliquer l'amour de Dieu ne peut pas se faire par une liste d'informations. C'est une expérience qui fait le lien avec la relation dont je parlais tout à l'heure. La Bible, les Écritures, sont inspirées de Dieu, non pas pour nous apporter des renseignements, elle est là pour nous apporter un enseignement. Et ça, ça change énormément l'état d'esprit avec lequel on lit les Écritures. Une petite histoire rapidement. Il y a des années en arrière, il y a un jeune dans une église qui m'a dit « Ah, pasteur, j'ai des questions, est-ce qu'on pourrait se parler ?» J'étais chez lui et il m'a matraqué pendant 2 heures avec des questions sur le déluge et l'arche, la taille de l'arche et comment les animaux sont rentrés dedans et comment ça a flotté.
Pendant 2 heures, j'ai répondu à ce que je pouvais. Au bout de 2 heures, j'en avais vraiment assez. Et je lui ai dit, bon, maintenant c'est à moi de poser des questions. Et je lui ai dit, bon, tout ce qu'on a vu sur le déluge pendant tout ce temps-là, en quoi est-ce que ça va changer ta vie demain quand tu vas à l'école? Il m'a regardé avec des yeux grands comme des assiettes. Je sais pas.
C'est un ado.
Un ado. Et je lui ai dit, ben, c'est ça le problème. Parce qu'avec tout ce que tu as comme information depuis 2 heures sur le déluge, ça ne change rien à ta vie. En fait, c'est ça. Le déluge nous est raconté dans les Écritures, non pas pour qu'on sache ce qui s'est passé dans le bateau à Noé, c'est parce qu'il y a là un enseignement que j'ai besoin de comprendre. Si je vais chercher dans la Bible des renseignements, c'est comme si j'utilise un livre de géographie pour trouver une formule de maths. Je passe à côté. Quand je lis les Écritures, je ne vais pas y chercher des informations, je vais y chercher un message. Les informations qui se trouvent dans les Écritures sont toutes au service du message.
Mais les informations en tant que telles, tu sais, disons les renseignements, ils vont être utiles aussi pour convaincre, pour corriger puis pour instruire. Tu sais, disons peut-être moins dans l'enseignement, mais en même temps, si tu arrives avec des points plus précis ou... Tu sais, disons là, que l'arche de Noé, il disait que c'était 10 pieds carrés et qu'il y avait 400 animaux là-dedans. Là. Moi, j'y croirais pas. Tu sais, les renseignements sont quand même utiles.
Les renseignements sont utiles pour autant qu'ils restent au service du message. Parce que je ne vais convaincre personne avec des arguments. Ce qui va convaincre quelqu'un d'établir une relation avec Christ, c'est un enseignement, c'est un vécu, c'est un message qui correspond à un besoin.
Oui, mais pour qu'il réalise son besoin, tu sais, il a besoin d'être sauvé, mais pour qu'il réalise son besoin, il faut qu'il soit en accord avec la Bible, là, quand même, parce que, tu sais, de nos jours, le fait que tu sois mauvais, c'est pas nécessairement être pécheur, puis c'est pas nécessairement grave. Il faut qu'il soit en accord avec la Bible, puis pour qu'il soit en accord avec la Bible, il faut qu'il... Ben, pas qu'il soit argumenté, mais tu sais, genre...
Les informations ont une importance, elles vont avoir leur importance dans la mesure où je les utilise comme des outils de construction du message. Et c'est ce message qui va m'amener à Jésus.
J'ai un exemple là-dessus. T'sais, j'avais été une fois, c'était un monsieur qui parlait là, sur des évidences là, comme quoi que la création c'était vrai. Puis, c'était, je me souviens plus si, en tout cas, il était assez avancé dans son...
Non,
c'est plus haut que lui encore. Puis, lui est allé dire, ce qu'on parle ce soir, c'est super intéressant, ça donne de l'information, ça nous aide à croire ce qu'on croit. Mais n'allez jamais essayer de convaincre quelqu'un que Dieu existe ou que la Bible, c'est vrai, à cause de ce qu'on parle ce soir. C'était comme ça qu'il expliquait le c'est, si la personne d'emblée n'a pas les mêmes prémices, elle n'ira pas dans la même direction. Ça fait que ce n'est pas des confrontations d'arguments continuels qui vont aider à changer son... Il faut qu'il y ait quelque chose de plus haut que ça qui change avant.
Quand on va parler, tu sais, pour amener le goût de n'en connaître plus, parfois pour en amener des points qui sont plus logiques, qui sont plus historiques, qui sont plus géographiques. Parce que c'est comme, ça, c'est le petit pas qui fait que oh, quelqu'un qui est plus cartésien ou je sais pas trop, là, va dire, ah ouais, peut-être, ça, c'est pas là pour rien non plus. Là. Mm-hmm.
Et c'est sur cette base d'informations aussi qu'on va construire, par exemple, toute la valeur de l'archéologie biblique. Mais l'archéologie biblique n'amènera personne à la conversion. Ce ne seront jamais que des pierres qui vont servir à la construction, parce que le texte nous dit... Dans sa parole, Dieu nous donne un message. Il nous donne un enseignement. Et c'est ça qui m'amène à construire une relation avec lui. Alors, je reviens en arrière. Numéro 1, Jésus est au centre de la révélation biblique. Numéro 2, pour rentrer dans cette révélation biblique, j'ai besoin, comme on l'a mentionné précédemment, que Dieu m'éclaire, qu'il ouvre mon esprit, et qui me donne de le comprendre par le même esprit qui a inspiré ceux qui l'ont donné. Troisièmement maintenant, la parole de Dieu n'est pas un livre de recettes, ce n'est pas un livre d'informations, c'est un livre dans lequel Dieu transmet un message. Le point 4, on l'a vu tout à l'heure rapidement, je saute les textes parce qu'on les a déjà vus. Je ne peux pas faire de la Bible une interprétation personnelle. Je dois chercher ce que Dieu a dit dedans et pas vouloir y mettre ce que moi j'ai envie d'y mettre. Je dois chercher qu'est-ce que Dieu a à me dire. On a ce texte, je passe rapidement là-dessus, dans Apocalypse où il nous est dit, Apocalypse 22, versets 18 et 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Si la parole de Dieu est si sacrée et importante, je ne peux pas en faire ce que je veux. Point suivant, numéro 5, je pense, une clé extrêmement importante pour l'étude de la parole de Dieu. Actes chapitre 17. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire Actes 17, le verset 11, s'il vous plaît?
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Il y a là l'expression concrète d'un principe fondamental qui est dans les Écritures et qui est exprimé à d'autres endroits, dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 14, à savoir que la parole de Dieu, la Bible, s'explique elle-même. Regardez ce qui se passe. L'apôtre Paul arrive dans un endroit, il va dans la synagogue, il rencontre des Juifs qui n'ont pas entendu parler de Jésus, qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé à Jérusalem. Lui est un Juif, il arrive dans la synagogue et il commence à leur parler de choses qui sont inconnues. Ces Juifs vont avoir le bon réflexe. Ils vont dire, ok, on t'a entendu, maintenant on a du travail à faire. C'est de vérifier dans les Écritures, qui sont pour eux l'Ancien Testament, si ce qu'ils ont entendu de Paul correspond avec ce qui a déjà été révélé. Ça, c'est une clé essentielle. Parce que Dieu ne va pas révéler quelque chose qui est incohérent par rapport au reste de la révélation. Dieu ne va pas inspirer un prophète en lui disant « les morts montent au ciel » et un autre en disant « les morts dorment ». Il y a une cohérence dans la révélation de Dieu. Si quelqu'un arrive et commence à me raconter quelque chose que je n'ai jamais entendu, je vais dire, ok, maintenant moi j'ai un travail à faire après toi, c'est d'aller vérifier dans les Écritures si ce que tu me dis est conforme à ce que Dieu a révélé aux prophètes inspirés, reconnus, qui ont écrit dans les Écritures. Maintenant, moi je vous renvoie ça. Je vous donne mon témoignage et je vous dis voilà ce que je trouve dans les Écritures. Vous avez besoin d'aller vérifier dans les Écritures si ce que je vous dis est exact. Si vous voulez être des disciples de Jésus-Christ, il faut que vous acquériez une conviction personnelle par rapport à ce qu'on découvre dans les Écritures. Cette responsabilité-là, elle repose sur chacun. Ce que les Juifs font ici, c'est ce que vous avez à faire aussi. Vérifiez, au fur et à mesure que vous arriverez à manipuler les Écritures, vérifiez si c'est cohérent. Je prends le même principe sous un angle différent. Je veux savoir, par exemple, qu'est-ce que la Bible me dit sur la mort, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Si je veux savoir ce que la Bible me dit sur la mort, je n'ai pas de choix. Il faut que je prenne dans ce livre tous les textes qui parlent de la mort ou des sujets qui vont avec, que je prenne tous ces textes-là et que de tous ces textes, je tire un enseignement. Parce que je ne peux pas prendre un texte au hasard sur la mort et dire « Ah, la Bible dit ça ». Il y en a je ne sais pas combien d'autres qui parlent du même sujet et qui vont construire un enseignement sur ce point-là. C'est la raison pour laquelle il y a un outil de travail qui est extrêmement utile, qui s'appelle la concordance. C'est un dictionnaire qui reprend par ordre alphabétique les mots qui sont dans les Écritures. Et à chaque mot se trouve tous les endroits dans la Bible où ce mot est utilisé, en utilisant l'ordre des livres de la Bible. Je vous montre ça simplement pour vous donner le principe. Dans ce que l'on va faire ensemble, j'ai sélectionné un certain nombre de textes qui me sont apparus significatifs de l'enseignement biblique global. Mais par conséquent, j'ai laissé de côté un grand nombre de textes sur ces sujets-là, parce qu'on ne peut pas les lire tous ensemble. Je les ai choisis moi. Et je vous en parle. C'est pour ça que je vous dis, il est important que vous sachiez à terme reprendre ces choses et les vérifier par vous-même pour voir si ça correspond vraiment aux Écritures. Par conséquent, je suis en train de vous faire un raccourci de ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est de prendre tous les textes, les lire et comprendre quel est l'enseignement biblique. Si Dieu est l'auteur de ce livre, je vais poser les questions à l'auteur, c'est-à-dire à Dieu qui a inspiré des prophètes tout au long de l'histoire pour traiter les mêmes questions. C'est la raison pour laquelle ma première ressource pour comprendre les Écritures, ce sont les Écritures. Et c'est pour ça que je vais d'un bout à l'autre chercher des morceaux qui correspondent à des mêmes notions pour la compléter. La Bible s'interprète par elle-même. J'aimerais regarder avec vous deux ou trois choses rapidement concernant encore les Écritures, son utilisation, son inspiration, avant de commencer à regarder autre chose. La première chose que j'aimerais regarder est à propos d'un texte qui se trouve dans Jérémie, au chapitre 36. Jérémie, chapitre 36. Il y a là une histoire intéressante de la vie de Jérémie. On ne va pas la lire en entier, on va simplement lire quelques textes et utiliser ce qui nous est donné dans ces passages-là. Ça va nous être utile pour comprendre comment fonctionne le principe de l'inspiration. Jérémie 36, on va commencer au verset 1. Jérémie 36, verset 1.
La quatrième année du roi Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour que je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour.
Merci. Remarquez ici, Dieu s'adresse à Jérémie et lui dit, prends un livre et tu vas écrire toutes les paroles que je t'ai données depuis le début. Ensuite, verset 4.
Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie.
Merci. Alors, vous remarquez ici, Jérémie va utiliser un secrétaire qui s'appelle Baruch. Jérémie va dicter à Baruch. Et Baruch va écrire sous la dictée de Jérémie. Vous remarquez que Dieu n'a rien dicté à Jérémie. Il lui a donné des songes, des visions, comme on avait vu l'autre fois. Dieu lui a transmis un message, et puis le temps a passé. Et un jour, Dieu dit à Jérémie, « Maintenant, tu vas prendre un livre, qui est un rouleau, et tu vas écrire là-dessus tout ce que je t'ai dit. » Il va utiliser Baruch, qui va copier, mot pour mot, ce que Jérémie va lui dire. Maintenant, l'histoire continue. Baruch va prendre le livre, il va le lire au temple, et puis, les gens vont être interpellés par ce qui va être écrit. Ils vont amener ce livre au roi. Et un peu plus loin dans le chapitre, il nous est dit, verset 23.
Lorsque j'ai eu dit le ulule trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé.
Merci. Le roi entend le texte de Jérémie. Il n'est pas content. Il le coupe, il le jette dans le feu. Versets 27 et 28.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda.
Merci. Verset 32.
Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija. Le secrétaire Baruch y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées.
Merci. Vous voyez ce qui se passe? C'est très important pour comprendre comment les choses sont transmises de la part de Dieu. Dieu donne des songes et des visions à ses prophètes. Ils reçoivent un message de la part de Dieu. Le prophète va mettre ça par écrit, sous l'inspiration de Dieu encore, mais il va écrire ça avec ses mots, avec son langage, avec ce qui est à sa disposition. Et il va, s'il le veut, utiliser un secrétaire pour le faire. Mais le secrétaire, lui, va écrire sous la dictée. Le secrétaire ne va pas inventer. Le prophète ne dit pas au secrétaire, « Écoute, Dieu m'a parlé de ça, va écrire quelque chose. » Le secrétaire écrit scrupuleusement ce que le prophète lui donne. Et dans le cas particulier, le roi a brûlé ce que le prophète a écrit. Dieu lui dit, tu reprends un livre et puis tu recommences. Et il va faire la même chose. Baruch va écrire sous la dictée, vous avez remarqué que ça a été souligné plusieurs fois, sous la dictée de Jérémie. Et la dernière phrase est intéressante et dit, beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Ce qui veut dire que lorsque Jérémie va écrire le livre pour la deuxième fois, il va en écrire davantage que ce qu'il avait écrit la première fois. Ces choses, nous les avons sous les yeux, dans son livre, jusqu'à ce chapitre-là. Dieu parle à ses prophètes, il leur transmet un message. Les prophètes reçoivent le message de Dieu et l'écrivent avec ce qu'ils ont de vocabulaire, de connaissance. Ce message-là, venant de Dieu par l'inspiration, est la parole de Dieu, avec malgré tout les limites humaines que représente l'intervention du prophète là-dedans. Dieu ne va pas dicter au prophète quelque chose. Il lui transmet un message. Le message est inspiré. Il ne vient pas du prophète, il vient de Dieu. Ce que nous devons rechercher dans les Écritures, c'est non pas une information, mais un enseignement. Autrement dit, le message en question. Dieu doit transmettre au prophète un message divin. Et ce message doit atteindre ce pour qui il est destiné, soit le peuple de Dieu, soit des individus. Seulement, le problème, c'est que Dieu est Dieu et que nous sommes des êtres humains. Regardez par exemple un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Évangile de Jean chapitre 3, est-ce que quelqu'un voudrait lire juste le verset 12 si vous voulez bien?
Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Vous avez déjà du mal à comprendre les choses terrestres. Le jour où je vais vous parler des choses célestes, vous serez perdu. Alors je vous donne un exemple. Il y a déjà pas mal d'années en arrière, mon garçon était petit, il avait 3 ans environ. Et j'étais en voiture avec lui. Et vous savez comment ils sont les enfants? Tout d'un coup, ils sont silencieux. Ils préparent leurs questions et tout d'un coup, ça sort. Il était dans son siège d'enfant, derrière. Et tout d'un coup, il me dit, « Papa, comment ça marche un diesel ?» Alors, tout en conduisant, je lui ai dit, « Écoute, un diesel, ça marche à peu près comme ça. On met de l'essence dans le réservoir, l'essence va dans le moteur, il y a une étincelle, ça fait boum et ça fait tourner les roues. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux ?»
Au raccourci, là, ben, c'est vrai.
En moi-même, je me suis dit, s'il y a un mécanicien qui était assis à côté de moi, il me regarderait d'un drôle d'air. C'est juste, mais c'est faux parce que...
C'est trop simple.
C'est trop simple. Mais dans ce que je lui ai dit, il n'y avait rien de faux. Et l'enfant de 3 ans était parfaitement satisfait. Il savait comment marchait un diesel. Dieu a le même problème avec nous. Il doit nous transmettre quelque chose qui nous dépasse tellement, qu'il doit nous le transmettre dans un langage que nous pouvons comprendre, recevoir, et qui est infiniment plus petit, plus étroit, plus réduit que la réalité divine qu'il veut nous transmettre. Raison pour laquelle dans les Écritures, il y a un tas de choses qui ressemblent à de l'humain, mais qui sont en réalité une vérité divine. Dieu va parler de vérité divine en termes humains, donc plus petits, réduits. Et Dieu a véritablement le même problème, pour reprendre l'image de tout à l'heure, de transmettre quelque chose de beaucoup plus grand à des êtres qui n'ont pas la capacité de comprendre l'immensité de la pensée, de la réalité de Dieu. En conséquence de ça, il y a une chose que j'aimerais regarder avec vous. Le message biblique va contenir la marque de l'humain. Par exemple, on a 4 évangiles, 4 fois l'histoire de Jésus qui est racontée. Mais les 4 évangélistes qui racontent la même histoire de Jésus ne vont pas tous raconter la même chose ou de la même manière. On va prendre un exemple, un seul, de ça. Je vais demander 4 volontaires. Vous lirez Matthieu 27, verset 37. Lisez, si vous voulez bien, Marc 15, verset 26. Si vous voulez bien lire Luc 23, 38, je vous demanderai de lire Jean 19, 19. Alors, on va les lire les uns après les autres, et puis on travaillera dessus ensuite.
Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. »
Merci.
L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait les mots « le roi des Juifs. »
Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci, c'est le roi des Juifs. »
Merci. Jean 19, 19.
Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. »
Merci. Qu'est-ce qu'il y avait écrit au-dessus de la croix de Jésus?
« Le roi des Juifs, ça ressemble à ça. »
Les quatre évangélistes rapportent le même fait. Ils rapportent le texte de la pancarte, mais il y a quatre textes différents. Il y avait combien de pancartes?
Une.
Il y en a qui vont pouvoir dire « Ah oui, mais ça vous voyez, ils ne sont pas inspirés parce qu'ils n'ont pas été fichus de transcrire la chose comme il faut. » Il y en a au moins trois là-dedans qui sont trompés. Vous vous rendez bien compte qu'avec quatre textes différents, qui ont tous des variantes les uns par rapport aux autres, vous êtes en mesure de savoir quel était le message de ce texte. Le message de ce texte, c'est « Cet homme est mis à mort parce qu'il se considère être le roi des Juifs. » Vous n'avez pas besoin de connaître le mot à mot exact. Vous avez, en mettant les différents éléments des évangiles, le message qui a besoin d'être transmis. C'est une illustration de ce qu'on disait la dernière fois, lorsque je vous expliquais que pour avoir le message biblique, on a besoin d'aller chercher dans toutes les Écritures, tout ce qui concerne un seul et même thème. Je ne peux pas prendre un texte et dire « la Bible dit ça », il faut que je prenne l'ensemble. Et en prenant l'ensemble, j'ai le message. Un autre exemple, mais Luc 23, 43. Je vous disais tout à l'heure que nous avons besoin de mettre les morceaux ensemble pour trouver le message du texte. Ça ne veut pas dire que les mots n'ont pas d'importance. Regardez maintenant, on va demander à Daniela de nous lire Luc 23, 43.
Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Voilà. Alors maintenant, je vais vous relire ce texte de deux manières différentes. Écoutez bien et vous me direz la différence que vous entendez. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ou bien, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La différence est dans quoi? La différence, c'est dans l'endroit où on va mettre la virgule. Si je mets la virgule avant aujourd'hui, Jésus dit, « Je te le dis aujourd'hui, je te dis ça maintenant », qui est une formule de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui dit, « Assurément, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais il ne lui dit pas quand. Si je mets la virgule avant aujourd'hui, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, il est en train de dire, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Mais vous voyez l'énorme différence qu'il y a dans l'enseignement qu'on peut avoir là. Or, en grec, il n'y a pas de virgule. Vous avez là un exemple d'un texte sur la base duquel, tout seul, on ne peut pas se baser pour déterminer ce que Jésus enseigne par rapport à la mort. On a besoin, pour savoir où mettre la virgule, des autres textes de la Bible qui parlent de ce sujet-là. Parce que dans l'original, il n'y a pas de virgule. Donc, celui qui va mettre la virgule, soit avant, soit après, va le faire en fonction de son présupposé théologique personnel. Si je veux comprendre le message biblique, je ne peux pas attraper un texte et sortir tout l'enseignement biblique d'un seul passage. Il faut que je le sorte de l'ensemble des Écritures pour viser juste. En réalité, dans le cas particulier de ce texte, même s'il n'y a pas de virgule dans le texte original, on a là une expression toute faite. Et quelqu'un qui, du temps de Luc, quelqu'un qui lit ça, ne se pose même pas la question qu'on se pose nous. Parce que l'expression « je te le dis en vérité aujourd'hui », c'est une expression toute faite qui veut dire « ce que je te dis, c'est assurément la vérité, ouvre tes deux oreilles. » Ce qui veut dire que celui qui va lire ce texte en grec, quand le grec est sa langue et sa culture, surtout avec quelqu'un qui a l'arrière-plan de l'Ancien Testament, ne va même pas se poser la question de savoir où il faut mettre une virgule. Pour lui, l'expression est un bloc dans lequel Jésus est en train de dire ce que je te dis, c'est une promesse. Tu seras avec moi dans le paradis. Vous me suivez? Mais nous qui sommes 2000 ans plus tard et qui avons notre texte en français, alors nous avons ce problème-là. Pour le résoudre, on prendra, quand on prendra ce sujet-là, les autres textes qui parlent du même sujet et on saura à ce moment-là ce que Jésus veut dire, non pas en fonction de ce texte-là seul, mais en fonction de tous les autres qui parlent du même sujet. Maintenant, une dernière chose que j'aimerais mentionner à propos d'un texte qui est dans Apocalypse au chapitre 1er. J'aimerais qu'on lise le verset 3.
Heureux celui-ci qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.
Merci. On est là au tout début du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Et c'est la première des sept béatitudes qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et qui dit trois choses. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent, et heureux ceux qui gardent. Dans ce texte, vous avez trois verbes qui correspondent à trois notions qui sont très utiles pour nous dans notre étude de la Bible. Heureux celui qui lit. C'est la première étape. Lire et comprendre le texte que l'on lit. C'est ce qu'on va appeler, vous n'avez pas besoin de retenir le terme, l'exégèse. Ça répond à la question, que dit le texte? Que dit le texte? Est-ce que je comprends les mots du texte? Est-ce que je comprends le sens de ce texte? C'est la première étape. Ensuite, il est dit, celui qui entend. Nous avons aussi en français ce sens dans le verbe entendre, comme en grec, qui est le sens de comprendre. C'est-à-dire de comprendre, mettre ensemble. Comprendre, c'est mettre ensemble. C'est-à-dire aller chercher ailleurs dans les Écritures les morceaux qui vont ensemble et qui se rapportent à ça. Ça, c'est la dimension de l'affaire, la théologie du texte. Et qui répond à la question, qu'est-ce que le texte veut dire? Est-ce que je comprends ce que ce texte veut dire? Quel en est le message global en fonction de ce que le reste des Écritures me dit sur ce point-là? Et finalement, heureux ceux qui gardent, c'est-à-dire ceux qui le mettent en pratique. Et ça répond à la question, qu'est-ce que ce texte dit pour moi? Quand j'ai un texte devant les yeux, j'ai trois questions. Qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que le texte veut dire? Qu'est-ce que le texte dit pour moi? C'est comme ça que je peux me nourrir de la parole de Dieu. Alors, pour terminer cette partie-là, j'aimerais simplement regarder un passage avec vous dans le psaume 119. On va juste lire les premiers versets. Psaume 119, versets 1 et 2.
Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur.
Merci. Versets 9, 10 et 11.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
17 et 18.
Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi.
Ça, c'est une prière. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Vous remarquez que dans ces passages sélectionnés du psaume 119, il y a chez le psalmiste cet aveu. Je te cherche de tout mon cœur. Heureux ceux qui gardent tes préceptes. Je crois qu'en cherchant dans la parole de Dieu à connaître sa volonté et en appliquant à notre vie le mode d'emploi que le Créateur a donné à ses créatures, on aura justement ce que le psalmiste dit. On sera éloigné du mal, éloigné du péché et dans la paix.